Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à toutes et à tous, c'est Sina. J'espère que tout le monde va bien et bienvenue dans cette nouvelle saison de l'affaire. Il y a des sujets qui vous marquent plus que d'autres. Cette nouvelle enquête en fait partie. C'est pour ça que c'est moi qui vais vous la raconter depuis le début. Ça fait 10 ans que la Méditerranée est devenue un cimetière pour les personnes qui tentent de la traverser. Un cimetière immense où souvent on ne peut pas inscrire les noms de ceux qui meurent en silence. On en a beaucoup parlé à une époque et 10 ans après, il faut avouer que c'est moins le cas. Pourtant, même sans faire la une des médias, ces passages aux frontières ont encore fait plus de morts en 2023 que sur chacune des 10 dernières années. Et l'histoire du naufrage que je vais vous raconter, c'est l'histoire de ce silence qui nous envahit. Lorsqu'il y a des appels de détresse en mer, au sein de nos gouvernements, comme sur nos écrans. C'est pour ça qu'à chaque épisode, vous allez entendre des témoins différents de la même histoire, pour tenter de rompre ce silence. Le naufrage, c'est une série que j'ai écrite avec Suzanne Collin, réalisé par Adrien Leblon pour l'affaire. Et attention, comme on parle de drames humains dans ce podcast, certaines scènes peuvent parfois heurter la sensibilité. On essaye de garder un équilibre entre la douleur de ces drames et les mots justes pour les documenter. Bonne écoute à toutes et à tous.
Je ne le souhaite à personne d'arriver sur les lieux d'un naufrage. En fait, après des heures et des heures de recherche, mais aussi d'appréhension, le 22 avril, en début d'après-midi, on a fini par apercevoir cette fameuse épave que l'on a recherchée. Elle était au loin, elle flottait au milieu des vagues. Et en nous rapprochant, on commence à distinguer les boudins gris. On voit aussi que le pont, lui, il est complètement inexistant et que la proue, elle est sous l'eau. Avec ces images, on ne peut que commencer à imaginer ce qui s'est passé et à se mettre aussi à la place de ces personnes, ce qu'elles ont pu ressentir. Et c'est assez effroyable.
Cette note vocale, je l'ai reçue au printemps 2021. Elle fait partie de dizaines d'autres messages que j'ai échangés avec Morgane. Morgane, à cette époque, elle est en charge de la communication d'un bateau de sauvetage en Méditerranée. C'est l'OFCOM, comme on dit à bord. Et le bateau sur lequel elle travaille, c'est l'Ocean Viking.
C'est le 4e jour d'intervention pour l'ONG SOS Méditerranée. 4 jours dans cette zone, au large des côtes libyennes, et toujours la même urgence. Il faut secourir la centaine de personnes à bord de ce bateau pneumatique.
L'Ocean Viking, il appartient à une ONG qui s'appelle SOS Méditerranée. Il a été affrété principalement grâce à des dons privés pour remplacer les bateaux des États européens sur cette mer, depuis qu'ils ont déserté cette frontière entre le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique.
Et je me souviendrai toujours de ces images. Il y avait des personnes...
Si Morgane m'envoie ce message en 2021, c'est parce qu'un mois avant, elle a été témoin d'un naufrage qui a fait 130 morts. Le naufrage d'un bateau pneumatique dans les eaux internationales, entre la pointe de l'Italie et la Libye, comme il y en a des dizaines chaque année en Méditerranée. Sauf que celui-ci, il l'a particulièrement marqué.
Je crois qu'à ce moment-là, c'est une première pour tout le monde. On est sonné. On est complètement sonné, en fait. Je me souviens que j'étais avec Flavio, donc le photographe à bord, et je lui ai demandé de prendre des photos. Je lui ai demandé de documenter ce qui se passait et de compter les personnes et qu'on puisse porter aux yeux du monde ce qui venait de se passer.
À l'époque de ce naufrage, moi j'étais journaliste à la radio. Ça faisait déjà 6 ans que je travaillais régulièrement sur ce sujet. En 2016, j'avais embarqué pendant plusieurs jours sur l'Aquarius, c'était le prédécesseur de l'Ocean Viking. C'était le moment où il y avait beaucoup de tentatives de traversée en Méditerranée centrale. Et on était pas mal de journalistes à vouloir comprendre et relayer dans les journaux ou les JT ce qui se passait sur ce qu'on appelait
la route migratoire maritime la plus mortelle au monde.
Là où depuis le début de l'année, 3000 réfugiés ont trouvé la mort en tentant de gagner l'Europe. Depuis une semaine,
mais 5 ans plus tard, en 2021, ce qu'a vu Morgan, ce naufrage et ses 130 morts, on n'en a presque pas parlé. Et pourtant, il y aurait eu beaucoup à dire. Ça, je m'en suis rendu compte à travers les témoignages des sauveteurs à l'époque. Et surtout, en écoutant les enregistrements radio des bateaux en mer ce jour-là. Du premier appel de détresse via un téléphone satellitaire, jusqu'à l'arrivée des sauveteurs sur ce naufrage. Ces enregistrements que j'ai pu me procurer, ils ne sont d'habitude pas rendus publics. Et c'est assez difficile d'y avoir accès. Ils permettent de comprendre heure par heure ce qui s'est passé ce 21 avril 2021. Mais aussi beaucoup plus. Ils permettent de comprendre la situation de blocage politique en Méditerranée aujourd'hui. Pourquoi en 2024, on est à près de 30 000 morts recensés sur cette mer sur les 10 dernières années. Pourquoi l'année dernière encore, le nombre de naufrages a quasiment doublé par rapport à l'année précédente. Et pourquoi malgré ça, les bateaux de sauvetage comme l'Ocean Viking se retrouvent souvent seuls, voire bloqués en mer. Ces enregistrements, ils permettent aussi de briser une forme de silence ou d'indifférence. Celle qui fait qu'en 10 ans, même quand on a des témoins, la couverture médiatique de ces événements a fini par se résumer à des chiffres.
Ce qui fait que plus de 3000 personnes se sont encore noyées l'année dernière.
Je m'appelle Sinamir.
Et vous écoutez le premier épisode du Naufrage.
Il y a un silence assourdissant autour de ces morts.
Le sujet, c'est aussi de les raccompagner, mais les raccompagner où ?
Vous les ramenez en Libye ?
Vous avez des enfants, des femmes enceintes, qui meurent devant nous. Et on s'en fout, on n'en parle pas.
On voit deux mains se lever depuis le centre de l'embarcation avec un poussin dans les bras, quoi.
C'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas devant un phénomène qui va s'arrêter.
C'est une réalité dont on est tous coupables.
Réalité terrible.
Oui, mais dont on est tous coupables.
Épisode 1, le naufrage.
Pour votre reportage inattendu, vous avez souhaité nous emmener au cœur des actions de SOS Méditerranée. Bonjour, Sinamir.
Bonjour à tous.
Grand reporter à la rédaction d'RTL.
Ce naufrage du 21 avril 2021, j'en ai parlé à l'époque où je travaillais à la radio.
En pleine tempête, par des creux de 6 mètres, vous entendez le vent et la mer.
C'est pour ça que j'avais demandé à Morgan de m'envoyer des notes vocales. Et puis après la diffusion, je suis passé à autre chose. Enfin, j'ai essayé. Mais chaque fois que je prenais des nouvelles des sauveteurs avec qui j'étais en contact, ce naufrage revenait dans les conversations. Comme un trauma qui continuait de les hanter. Et puis un jour, j'ai découvert ces enregistrements radio. Et là, ça n'a plus été possible de passer à autre chose. Alors 2 ans après le dernier message de Morgan, j'ai décidé de mener l'enquête et je l'ai rappelé.
Salut Sina.
Ça va ?
Ça va bien ?
J'ai pris un train et je l'ai retrouvé dans les bureaux de SOS Méditerranée, à Marseille. Morgan, ça fait plusieurs années qu'elle travaille pour cette ONG de sauvetage. Lorsque je décide d'aller la voir, elle m'annonce qu'elle veut peut-être arrêter. Mais avant, elle dit qu'elle a encore envie de témoigner et de m'en dire plus sur ce naufrage.
Ça a été une mission éprouvante et surtout teintée d'un silence assourdissant, en fait. Silence dans la nuit, dans nos recherches, silence après de ne pas avoir de coordination, une inaction en termes de coordination de ces recherches et de sauvetage. De l'inaction.
En avril 2021, c'est la première fois que Morgan monte sur l'Ocean Viking. Depuis 4 ans, elle s'occupe de la communication de l'assaut, mais depuis la Terre. pendant que des marins professionnels, des humanitaires souvent français, suisses, italiens ou allemands, partent en mer pour 1 à 2 mois environ. Mais là, pour la première fois, elle a envie de se confronter directement à ses opérations de sauvetage. Et donc, elle monte à bord.
Le 10 avril 2021, j'embarque aux côtés de marins sauveteurs, d'infirmiers, de logisticiens, de sages-femmes, de photographes, de plein de personnes différentes. Et on est 24 à bord, 24 à nous engager pour donc cette cause commune, à accepter de partager nos cabines et nous confiner dans cet espace clos pour plusieurs jours, sans savoir forcément la date de retour. On est conscient que rien n'est laissé au hasard dans la recherche et le sauvetage. Moi, j'ai été impressionnée par une rigueur presque militaire à bord. Il n'y a pas un objet qui traîne et vraiment, il n'y a rien qui est laissé au hasard. On s'entraîne pendant plusieurs jours aux gestes qui sauvent, à s'équiper au plus vite, à transformer en quelques minutes un conteneur en une clinique d'appoint, à toutes sortes aussi de scénarios en mer, de jour comme de nuit. On identifie son stress, on désamorce la peur, on apprend les gestes avec un mannequin sur les genoux en s'imaginant que c'est une personne réelle. Des fois, c'est un mannequin taille bébé aussi. De plus en plus, ça devient très concret. On sait qu'en mettant les pieds sur ce bateau, c'est ce qu'on va être amené à faire. Donc, on y va, en fait. On ne réfléchit pas et on veut être efficace. Ce qui me frappera, c'est vraiment les exercices très concrets. On me met un bébé mannequin sur les genoux et je dois m'entraîner à la réanimation cardio-pulmonaire sans casser les côtes de ce bébé. Donc il y a tout un enjeu aussi de faire les bons gestes pour réanimer sans que ce soit trop brutal lorsque c'est un corps beaucoup plus frêle que celui d'un adulte. Parce que justement, on veut être entraîné pour pouvoir le faire de la meilleure manière quand il s'agira de le faire en vrai. Donc il faut s'entraîner. Chacun a son rôle et sa place et chacun doit connaître exactement ce qu'il doit faire au moment où on entend « ready for rescue » à la radio. Donc ça nécessite toute une préparation et un chef d'orchestre qui coordonne toutes ces personnes pour qu'elles soient prêtes au moment venu du sauvetage.
Après plusieurs jours d'entraînement obligatoire sur chaque début de rotation, l'Ocean Viking met le cap sur ce qu'on appelle la zone de sauvetage libyenne. Zone de sauvetage, parce que pour répartir les opérations en Méditerranée, on a découpé la carte par zone. Et libyenne, parce que cette partie de la Méditerranée au nord de l'Afrique, c'est aux autorités libyennes qu'elle a été confiée. Et dès le 20 avril 2021, quand l'Ocean Viking met le cap sur cette zone de sauvetage libyenne, très vite, ils reçoivent une alerte. Un bateau avec 40 personnes est signalé à 10 heures de navigation de Morgane et ses collègues.
10 heures, c'est assez éloigné en termes de navigation. Et on se dit, il va falloir se reposer cette nuit. Parce que concrètement, le lendemain, ça va être compliqué. On a une veille aux jumelles qui se met en place à bord. Et on commence à rechercher ce cas avec les derniers coordonnées GPS qu'on a pu recevoir. Il se trouve que le vent commence à se lever, la météo s'annonce très mauvaise. Et on se met à la recherche de cette embarcation avec des éléments, un vent violent, des vagues qui montent, etc. Mais c'est que le début, en fait. Et la tempête, elle va vraiment avoir lieu pendant la nuit où on est censé se reposer et prendre des forces. Et c'est là où on se rend bien compte que ça va devenir compliqué. En fait, on a des coordonnées GPS très précises, mais avec le courant, en fait, l'embarcation dévie. Et forcément, les coordonnées qui sont très précises à un instant T vont forcément évoluer avec le temps, avec le courant, etc. Donc on n'est jamais, on peut pas arriver et dire, c'est pile poil l'endroit où on va la retrouver, cette embarcation. On va foncer toute la nuit à travers les vagues pour tenter de nous approcher de cette dernière position indiquée. Je vois des marins professionnels aguerris qui sont complètement malades, qui ont le mal de mer. Et je m'imagine des personnes qui sont sur un tout petit rafio en caoutchouc au milieu de ces mêmes vagues que nous. Alors que nous, on a un Ocean Viking de 70 mètres, robuste, qui essaye quand même de se frayer un chemin à travers ces vagues-là. forcément, on a ça en tête pendant la nuit. On ne trouve pas le sommeil, en fait. Du coup, je décide de rejoindre Louisa à la passerelle.
La passerelle, c'est l'endroit d'où on pilote le bateau. Sur l'Ocean Viking, ce soir-là, en pleine tempête, la lumière est éteinte. Il fait noir. Et il y a juste les écrans des radars et des GPS pour éclairer Louisa, la coordinatrice de la mission. Morgan la rejoint pour effectuer son quart. Et quand on cherche pendant des heures, un bateau pneumatique dans le noir, au milieu de la Méditerranée, l'ambiance est plutôt tendue.
On n'a pas échangé beaucoup de choses ce soir-là. Il y avait vraiment une ambiance très pesante. Et au cours de la soirée, on entend à la radio un « Mayday » qui, pour moi, sera glaçant. D'entendre ça à la radio, un Mayday, c'est assez nouveau. Et ça met tout de suite les choses très concrètes dans la tête. Cet appel n'est pas revendiqué, on ne sait pas de qui il provient en fait. Et on le réentend une deuxième fois après. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose de grave et qu'il faut intervenir.
Pour bien comprendre, à ce moment-là, Morgan et le reste de l'équipage ne savent pas si ce signal d'alerte concerne le bateau sur lequel ils mettent déjà le cap ou un autre bateau en difficulté. Ils ne savent pas si ce sont des gardes-côtes qui ont émis ce signal, si c'est un bateau de pêche, si c'est un avion ou un centre de coordination à terre qui envoie ce signal d'urgence.
Il y a eu zéro réponse à ce Mayday dans les communications VHF. En fait, c'était un silence aussi assourdissant de voir à quel point ces recherches-là n'étaient pas coordonnées et qu'il n'y avait aucune réponse de la part des autorités maritimes à ce moment-là et qu'on était seul dans ces recherches-là. Louisa, toute la nuit, essaye tant bien que mal d'avoir un peu plus d'informations, savoir s'il y a quelqu'un qui coordonne cette recherche et on n'a aucune réponse, rien du tout.
Ocean Viking, do you read me?
Au milieu de la nuit, d'être laissé dans un silence comme ça absolu, c'est inquiétant. Et c'est là aussi où, en fait, tous les doutes commencent à se transformer en certitude. Et nous aussi, l'espoir d'arriver à temps, en fait, laisse peu à peu place à une certaine horreur aussi. Le lendemain, quand on se réveille, à 5 heures du matin, on atteint la zone indiquée.
Et sur la zone, ils ne trouvent rien. Parce que ce que les marins de l'Ocean Viking ne savent pas, c'est que le bateau qu'ils recherchent a rebroussé chemin face à la tempête. Mais faute d'informations de la part des autorités, les sauveteurs vont quand même se mettre en recherche pendant 12 heures. Et pendant ce long temps de recherche, d'autres alertes arrivent. Deux autres bateaux en détresse sont signalés, avec à leur bord respectivement autour de 100 et 130 personnes. Pendant des heures, des Mayday s'enchaînent sur les ondes. En fin d'après-midi, l'Ocean Viking désespère de retrouver la première embarcation. Il capte un nouvel échange radio entre un avion de surveillance et les gardes-côtes libyens. L'équipage comprend que les gardes-côtes se mettent en route vers le bateau transportant 100 personnes. Alors il décide d'aller sauver le troisième bateau. Il se situe une nouvelle fois à 10 heures de route. Sauf que cette fois-ci, Morgan et l'équipage réalisent qu'ils ne sont pas seuls.
En réponse à cet appel Mayday, trois navires marchands vont changer de cap pour se diriger vers les lieux. Je me souviens de leur nom parce que c'est ce qui nous a permis à ce moment-là de se sentir un peu moins seuls. C'était My Rose, Alk et Lisbeth. Et ces trois navires marchands qui se sont détournés pour aller sur le lieu du cas en détresse qui avait été communiqué. On met en place une zone en fait de recherche où vraiment on sait que tel navire est en train de faire telle patrouille à tel endroit, tel autre est en train de plutôt être côté nord, côté sud, etc. Et le périmètre est en quelque sorte quadrillé. Et c'est ça qui se met en place de manière complètement spontanée, sans aucune coordination.
Ici, je vais juste faire une parenthèse parce que ça me paraît important et qu'on ne le sait pas forcément si on n'est pas marin. Mais le capitaine d'un navire a le devoir de secourir quiconque est trouvé en péril en mer, sauf dans le cas où le fait de porter assistance entraîne un risque grave pour son propre équipage. C'est ce que dit le droit international quand on lit la Convention des Nations Unies de 1979 sur le droit de la mer. Et ce qui explique que des navires marchands se soient mis spontanément en recherche de ce bateau en détresse aux côtés de l'Ocean Viking, à partir de ses derniers Mayday jusqu'au lendemain, le 22 avril 2021.
Buongiorno, ufficiale di servizio.
Buongiorno, siamo della Ocean Viking.
Vers le milieu de la journée, vers 13h, on apprend qu'un des navires marchands a repéré en fait trois cadavres dans notre zone de recherche. Donc là, ça commence à se concrétiser. Et nos peurs se concrétisent aussi sur le fait qu'on n'est pas arrivé à temps et que en fait, ces personnes-là, à l'heure qu'il est, ne doivent plus être vivantes, en fait. Et ce qu'on recherche depuis tant de temps finit par apparaître aux yeux de tous, en fait, dans un spectacle désolant. On arrive sur les restes d'une épave. C'est un pont qui a complètement disparu, des flotteurs gris qui gisent à la surface, battus par le vent. Je me souviens vraiment aussi du vent qui était encore bien présent et d'arriver sur les restes de ce qui était une embarcation en caoutchouc. Et on recherche des passagers aux jumelles, aux alentours de cette épave, et on n'en voit pas. On a toujours un espoir quand même. C'est assez contradictoire parce que l'épave, ce qu'il en reste, ne laisse pas beaucoup place à beaucoup d'espoir, mais je crois que c'est très humain. Et peu à peu, on commence à voir au loin des formes de bouées colorées. Et ce qui s'ensuit, en fait, c'est pour moi ce que j'appelle une mer de honte. C'est des gilets de sauvetage qui se rapprochent de plus en plus, qui sont vides, et en fait, peu à peu, ces gilets, en fait, il y a des gens à l'intérieur. Et là, on peut que commencer à s'imaginer, en fait, ces personnes-là qui ont été arrachées par la violence des vagues, tombées dans une eau glacée, et voilà, qui vous saisit chaque membre et sombrer dans cette eau sans être entendu par personne. Dans une indifférence la plus totale.
Bon, c'est un texte que j'ai écrit en commémoration pour marquer les 1 an du sauvetage. Ça s'appelle « Que reste-t-il du naufrage ?». Je vais la refaire parce que ça fait 2 fois que je dis « sauvetage » au lieu de « naufrage » et je tiens à dire que c'est un naufrage. Et je fais un lapsus depuis tout à l'heure. C'est un texte que j'ai écrit pour le premier anniversaire du naufrage et ça s'appelle « 1 an après, que reste-t-il de ce naufrage ?».
Ce 22 avril 2021, ils étaient 24 en tout à bord de l'Ocean Viking et 6 ou 7 dont c'était la première fois au large de la Libye. C'est le cas de Justine.
Un an après, que reste-t-il de ce naufrage et de la minute de silence teintée d'amertume réalisée à bord de l'Ocean Viking ? Quelques titres de presse archivés et des images imprimées dans nos têtes en guise de témoignage de ce naufrage. Mais aussi et surtout, des familles et amis sans nouvelles de leurs proches non identifiés. Qui un jour répondra de son inaction délibérée face à l'obligation légale de porter assistance à ces 130 individus et à tous les autres dont la disparition demeure silencieuse car non documentée ? Combien encore de naufragés anonymes pour convertir le cimetière Méditerranée en fosse commune ?
Justine a 29 ans. Je l'ai retrouvée chez elle en Bretagne entre deux rotations sur l'Ocean Viking. Après avoir fait des études de sciences politiques, s'être formée à la navigation et au sauvetage dans le Finistère, elle a rejoint SOS Méditerranée en 2021.
De par mes études, j'avais été sensibilisée à la thématique migratoire. Je me suis vraiment renseignée sur ce qui se passait en Méditerranée. Et puis, je suivais déjà SOS avant même de savoir que j'aurais envie de rejoindre. Et ensuite, c'est en allant à un événement de sensibilisation de SOS Méditerranée où il proposait une exposition photo et une vidéo d'un journaliste fait lors d'une rotation, que je me suis dit, c'est ça. C'est ça, en fait, ça fait sens.
Quand elle monte à bord de l'Ocean Viking quelques jours avant le naufrage, elle pense être préparée à tout. Mais le 22 avril, en début d'après-midi, lorsque les sauveteurs découvrent l'épave et les silhouettes des naufragés dans l'eau, la réalité la rattrape.
Moi, à ce moment-là, je suis pas à la passerelle parce que c'est pas mon quart. Donc moi, je vois rien. Et on est juste avec le leader de notre équipe. En fait, il nous demande comment on se sent à l'idée de peut-être aller récupérer des corps. C'est plus ça, le souvenir, plus qu'une image. C'est de savoir... Si on intervient, est-ce qu'on se sent en accord avec l'intervention qu'on va faire ? Mais on n'est pas intervenu. Avoir des corps dans notre conteneur réfrigéré qui fait office de morgue impliquerait aussi qu'on rentre au continent au plus rapidement possible. Et donc, ça nous éloigne potentiellement d'un cas en détresse où là, les gens sont vivants et ont besoin d'une assistance.
En principe, quand l'Ocean Viking fait des rotations, il ne revient à terre que lorsqu'il fait un maximum de sauvetage sur zone. Et là, avec des corps sur le bateau, l'équipe aurait dû rentrer tout de suite à terre sans avoir sauvé personne. Pour Justine, pour Morgan et les autres sauveteurs, c'est le deuxième traumatisme. Après être arrivés trop tard, ils ont dû faire un choix.
Ce qui m'anime à ce moment-là, c'est le questionnement, est-ce que ne pas aller récupérer ses corps, c'est digne, respectueux quand même pour ces personnes. Et en revanche, je vois aussi la limite de ce que cette manœuvre aurait impliqué, parce qu'en fait, on cherche jusqu'à quand ? On en voit 3-4 qui flottent là, mais s'ils sont potentiellement 130, on cherche jusqu'à quand, vers où ? Moi, j'étais sur le pont au niveau du canot de sauvetage. Ceux qui étaient de veille ont tout de suite repéré les corps, mais du coup, les corps dérivent et à un moment, longe le bateau. Donc, je les ai vus et en fait, il y a même un moment où je me suis déplacée pour me tenir face au corps. Et puis, j'ai fait une petite minute de silence de mon côté, face à eux. Et ensuite, je suis partie. Parce que j'étais inconfortable avec la notion de voyeurisme. J'avais déjà rendu hommage, et donc j'avais pas besoin de la regarder. Et ensuite, collectivement, on a fait une minute de silence dans le salon à l'intérieur du bateau. Je me rends compte que cette première rotation Bah, j'ai vu finalement le pire, entre guillemets, de cette situation en Méditerranée. Mais ça, je peux pas le savoir à ce moment-là, parce que c'est ma première rotation et je prends pour argent comptant ce que je vois comme une réalité quotidienne. Les cas de détresse, ils sont quotidiens. La mort, elle est pas quotidiennement vue.
Finalement, le 27 avril au petit matin, 5 jours après ce naufrage, l'Ocean Viking recevra un nouvel appel de détresse. Son équipe réussira à mettre en sécurité 236 femmes et hommes, dont près de 120 mineurs, tous entassés dans 2 nouveaux canots pneumatiques. Ce sera la fin de cette rotation en mer pour le bateau de sauvetage, mais aussi le début des questions pour son équipage, qui cherche à comprendre ce qu'il s'est passé pour ceux qu'ils n'ont pas réussi à sauver.
Il y a beaucoup d'incompréhension. En fait, il y a chaque étape, il n'y en a aucune que je comprends, dont je comprends le comportement des acteurs extérieurs. Je ne comprends pas pourquoi les patrouilleurs libyens ont intercepté une embarcation et pas la deuxième, alors qu'ils n'étaient pas loin l'un de l'autre. Je ne comprends pas pourquoi le patrouilleur aérien émet un MEDES sans faire le deuxième pas, qui est de coordonner les recherches. Et puis je comprends pas en fait qu'on laisse à la mer le soin de d'étouffer un sujet, d'étouffer le sujet d'immigration qu'on veut pas voir. Je me dis qu'on oublie que c'est des humains qui traversent.
La semaine prochaine, retrouvez le deuxième épisode du Naufrage. Une série originale du podcast L'Affaire, écrite avec Suzanne Collin et réalisée par Adrien Leblanc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.